l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Laure Rossignol, journaliste qui signe son premier ouvrage, un livre de plus de 250 cartes postales datant du début du siècle, intitulé « Le Barin d'Antan », ça sort aux éditions Hervé Chopin. Laure Rossignol, bonjour.
Bonjour.
Magnifique ouvrage que vous signez là et qui nous invite à redécouvrir le département sous différents aspects dont nous parlerons un peu plus tard. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à parcourir le département du début du siècle ?
Alors, c'était vraiment une volonté, en fait, hein, de l'éditeur Hervé Chopin qui cherchait quelqu'un, en fait, pour rédiger un livre sur le Barin d'Antan, donc la période 1871 à 1918. Et ce livre, en fait, fait partie de toute une collection de livres en noir et blanc hein, qui sortent sur le début du XXe siècle et qui sont édités, en fait, dans chaque région de France. Donc, il y avait déjà un livre qui avait été fait sur l'Alsace, mais là, le but, c'était vraiment de s'intéresser au Barin à travers différentes thématiques. Et donc, j'ai été mise en relation avec eux et je me suis lancée dans cette aventure en effectivement essayant de parler de la vie quotidienne dans le Barin à travers plusieurs thématiques.
Comment est-ce que vous avez procédé ? Vous êtes partie des cartes postales, elles sont issues de collections privées, vous nous en parlerez un peu plus tard, pour commenter la vie quotidienne des Alsaciens ou l'inverse ?
Alors le but c'était vraiment, on est parti de ces cartes postales qu'on a triées et à partir de cette carte postale en fait sont ressorties plusieurs thématiques. Le but c'était vraiment de décrire à travers ces cartes postales la vie quotidienne de la manière la plus large possible, en parlant aussi bien du monde rural, des villes, de l'industrialisation, des loisirs et puis évidemment de la guerre et du retour à la France. Et donc du coup, au fur et à mesure, il y a 7 thématiques qui sont ressorties et je voulais vraiment que le livre puisse toucher le public le plus large possible et qu'il soit accessible à tous. Et on a aussi décidé après de faire un chapitre sur les villes les plus importantes, donc Strasbourg, Haguenau, Sélestat et Obernai. Et ensuite, donc vous l'avez dit, en fait, il a fallu donc trier effectivement toutes ces cartes postales. Il y en avait plusieurs centaines hein, qui ont été toutes fournies par l'éditeur. Donc moi, je les ai regardées effectivement chacune. On a choisi ensemble. Il a fallu, en fait, le but, c'était vraiment de couvrir le département de manière le plus large possible pour que tout le monde puisse un peu se reconnaître. Et ces cartes, elles sont vraiment magnifiques. Hein. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé,
oui.
Mais elles proviennent effectivement, vous l'avez dit, de plusieurs fonds privés, notamment des collections d'Olivier Bouze et de Vincent Kaufmann. Donc, ce sont des collectionneurs de cartes qui sont les gardiens de notre passé. Et je pense que dans chaque ville ou dans chaque village, il y a peut-être quelqu'un qui pourra reconnaître un ancêtre, que ce soit une personne de sa famille ou de son village. Moi, je trouverais ça incroyable, en fait. Parce que pour le moment, pour moi, ces visages sont encore anonymes et j'adorerais que quelqu'un me dise « Ah bah j'ai vu mon arrière-arrière-grand-père ou mon arrière-grand-mère sur une luge, au marché ou dans les champs. »
Alors on reconnaît également les places des villages à Strasbourg, évidemment dans les plus grandes villes, les choses n'ont pas tellement bougé. Mais en milieu rural, c'est pareil, des maisons alsaciennes qui sont là, qui sont encore en place et une certaine préservation de ce patrimoine alsacien. En milieu rural ?
Effectivement, hein, il y a des villages où les rues sont complètement identiques et je pense que si on se promenait à travers les rues, on verrait les mêmes maisons alsaciennes avec les mêmes symboles effectivement sur les porches et effectivement c'est assez frappant de voir toutes ces similitudes et de voir à quel point on a conservé en fait tout cet héritage, même si effectivement dans les campagnes, le monde rural effectivement a pas mal changé à cette époque parce qu'en 1870, il y a quand même les trois quarts des habitants qui vivent à la campagne et peu à peu en fait tout s'est modernisé, on a introduit la culture du houblon, des asperges, de la betterave à sucre. Et tout ça, c'était pour répondre effectivement aux besoins croissants des villes qui, eux, en fait, augmentaient également. On a eu pas mal aussi, du coup, de brasseries qui ont commencé à ouvrir. Certaines étaient reliées au rail et donc ça a permis effectivement une exportation plus importante. Donc effectivement, il y a quand même eu des mutations très très importantes, y compris dans les campagnes.
On voit les personnages des femmes et des hommes avec leurs beaux costumes, alors les femmes avec les coiffes alsaciennes. Est-ce que ce sont, parce qu'à l'époque, on ne prenait pas des photos, on était très très loin déjà de l'argentique et ensuite du numérique. Est-ce que les gens se faisaient beau pour les photos en prévision effectivement d'une photo qui allait devenir une carte postale?
Alors, ça, moi personnellement, je ne sais pas, mais c'est toute l'impression que ça donne. Effectivement, on voit dans le livre qu'à chaque fois, les habitants posent, que ce soit sur la couverture, hein, notamment du livre, c'est une photo qui a été prise à Sossenheim. On voit effectivement des hommes et des femmes qui ont l'air quand même particulièrement endimanchés. Hein. Les hommes portent des cravates ou des nœuds papillons, alors des chapeaux, bon, ça c'était assez courant à l'époque. Les femmes sont effectivement bien habillées, ils posent à côté de vélos et d'une calèche devant une maison alsacienne. Et effectivement, il y a de nombreuses photos comme ça où on voit qu'ils regardent l'objectif, hein, que ce soit dans les champs, sur les luges, dans les loisirs, effectivement, que ce soit dans les cours de gymnastique. Effectivement aussi, lors de la libération, les femmes posent en coiffe alsacienne, mais aussi lors des fêtes religieuses. Effectivement, on voit des processions religieuses comme à Geispolsheim avec la fête Dieu, où les gens, effectivement, fixent l'objectif. Et c'est assez surprenant, effectivement, de voir ça.
Alors, vous avez réservé une large part et des photos d'illustrations magnifiques sur Strasbourg, qui était la vitrine du Reich à l'époque. Elle a été profondément marquée, hein, évidemment, par l'arrivée des puissances allemandes, et ça, dès 1870.
Effectivement, à Strasbourg, c'était vraiment la vitrine du Reich, avec la place du Kaiser, hein, qui est aujourd'hui la place de la République. Et la ville a vraiment complètement changé avec le plan d'urbanisme de la Neustadt, qui est aujourd'hui effectivement bien sûr classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis il y a la Grande Percée qui a permis d'améliorer et de moderniser le confort des Strasbourgeois, puisque en fait les habitats insalubres ont été remplacés par des nouveaux immeubles qui ont commencé à avoir l'eau courante, le gaz et le tout à l'égout. Il y a beaucoup de bâtiments qui datent de cette époque, hein, la Bibliothèque nationale, la gare, le lycée des Pontonniers, les bains municipaux, hein, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, l'école Saint-Thomas, les Arts déco. Il y a aussi l'université, hein, qui est particulièrement réputée aussi à cette époque pour son enseignement et sa recherche. Et il reste aussi encore aujourd'hui l'observatoire astronomique, par exemple. Donc voilà, effectivement, Strasbourg devait rayonner à travers l'Allemagne, du coup, à ce moment-là.
Et le tramway qu'on retrouve, place Kléber, déjà, qui a disparu après, mais qu'on retrouvait déjà à ce moment-là, place Kléber.
Effectivement, alors ça, c'était très surprenant. Enfin, moi, j'étais très surprise de voir à quel point les transports étaient vraiment modernes à cette époque. Il faisait d'ailleurs partie des plus modernes d'Europe. En fait, le chemin de fer est passé de 800 à 1900 kilomètres à cette époque. Et les Allemands avaient décidé de particulièrement développer les liaisons vers l'Allemagne et de limiter, bien évidemment, du coup, celles vers la France. Je crois qu'il n'y en avait que deux. Et effectivement, le tram parcourait tout Strasbourg. Et à cette époque, on pouvait déjà se rendre à Eunheim, à Kehl, à la Robertsau ou encore à Inkirch. Et il y avait même des trams suburbains donc, qui emmenaient les voyageurs jusque dans les vallées vosgiennes, ce qui arrangeait bien évidemment les industriels d'être reliés au rail. Et on sait aussi qu'il y a beaucoup de gares qui datent de cette époque, hein, à Strasbourg, à Célestat ou à Bischheim, avec souvent des horloges qui permettaient effectivement de fluidifier le trafic.
Et on va parler encore, on est dans la pleine période du marché de Noël de Strasbourg. On a retrouvé une première trace en 1570 du premier marché de Noël de Strasbourg. Incroyable!
Oui, effectivement, hein, et on se rend compte que déjà à ce moment-là, le marché de Noël attirait beaucoup de monde. On y vendait déjà des pommes d'amour, enfin des sucreries. Les gens venaient vraiment se promener comme aujourd'hui. Il y a une carte où on voit effectivement Place Broglie, qu'on y achetait son sapin de Noël comme aujourd'hui. Effectivement, c'est assez touchant de voir qu'on a conservé toutes ces traditions encore aujourd'hui, quoi.
Laure Rossignol, merci infiniment. Alors j'invite vraiment nos auditeurs à feuilleter ce livre, à se le procurer. On voyage dans le temps, réellement. Alors il y a quelque chose de connu, il y a une Madeleine presque, on reconnaît les paysages tout en étant dans une autre époque. Vous avez fait un travail magnifique et très très bien renseigné. Merci infiniment à vous. Vraiment,
merci,
je suis
beaucoup.
Sincère. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Barin d'Antan, c'est aux éditions Hervé Chopin. Merci.
Merci.
l'invité de la rédaction, Valérie Vial.